Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Vous êtes actuellement sur la 14.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 1, épisode 8 de Coup Critique, l'émission qui parle de vos livres, BD et manga préférés toutes les deux semaines. Je m'appelle Aeva et j'ai avec moi Mathieu, Pierre et Mélouane.
Salut.
Hello.
Attendez, on va la refaire parce que j'ai encore oublié les micros. Mais redites bonjour, c'est pas grave.
Salut.
Deuxième fois que ça m'arrive. Tous les quatre membres de la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne, aussi appelée BDBDEC, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux de la BDBDEC et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui, c'est la dernière émission du semestre. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une émission un petit peu spéciale qui ne suit pas le format de d'habitude. Tout va être basé sur le concept de Unpopular Opinion. En fait, c'est quelque chose qu'on fait en général à la fin de à peu près toutes nos émissions, où il y en a un qui a un avis désastreux à dire, il le dit, si c'est 5 minutes de gloire, il le fait. Là, on s'est dit qu'on allait faire ça pendant une heure. Et voilà, donc globalement, pour introduire à tout le monde ce que c'est qu'une Unpopular Opinion, c'est un peu un avis désastreux. C'est pas un avis désastreux, non, je rigole. C'est pas vraiment ça, c'est plus un avis positif ou négatif, souvent négatif, mais ça peut être positif aussi, qui n'est pas partagé par la plupart des gens qui suivent une œuvre quand même plutôt populaire. Donc là, on va pouvoir parler de ça. Globalement, est-ce que certains d'entre vous, Mathieu en premier par exemple,
Allez,
je te cible, Mathieu, c'est toi qui démarre.
Oh la fléchette.
Donne-nous un avis que personne ne partage trop sur une œuvre globalement appréciée ou
apprécié.
Pas. Dis-nous tout.
Bon, je vais me faire détester, mais en vrai, JJK, c'est un peu classique, quoi.
Développe bien, ouais.
Non, mais je veux dire, en soi, c'est encore une énième histoire sur des gens à Tokyo qui combattent des démons ou des forces maléfiques. On a déjà eu Tokyo Ghoul dans le style, Chainsaw Man. C'est un genre qui n'est pas nouveau en soi. Mm-hmm. Et globalement, l'œuvre est bien réalisée, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette œuvre en particulier, plus que par rapport à une autre qui a déjà traité des mêmes thématiques, en fait. Sachant que oui, elle est bien, mais elle n'est pas par rapport aux autres, en tout cas extraordinaire. Elle se démarque pas plus que ça, j'ai l'impression, tu vois.
Elle se démarque pas par rapport à quoi? C'est juste en général, n'importe quel aspect ou...
En général, parce que par exemple.
Le scénario,
pareil, c'est. T'as le premier arc, c'est initiation des personnages, un peu entraînement, développement. Deuxième arc, bon là, il marque un tournant majeur avec une grande catastrophe. Bon, troisième arc, je vais pas spoiler, mais c'est dans les scans actuellement. Et c'est assez classique, pareil, finalement, et ça part juste en combat, H24. Bon.
Ouais.
Je veux dire, y a rien de novateur, en fait, dans ce qui est présenté, c'est ça. Je sais pas que c'est mauvais, mais... Voilà, il n'y a rien vraiment de nouveau. Et tu me dis de comparer ça à Tokyo Ghoul, je fais, bah, c'est les mêmes choses. Enfin, les deux se valent autant l'un que l'autre.
Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je n'aime pas du tout Tokyo Ghoul, du coup, alors que j'adore Jujutsu Kaisen. Je ne suis pas du tout d'accord.
Après, avec Tokyo Ghoul, de ce que j'ai compris, l'anime est vraiment moins comparé au manga. Enfin, c'est encore une autre chose, mais. Pour JJK, je trouve que les combats sont beaucoup mieux réalisés et beaucoup plus, genre t'es beaucoup plus engagé avec les personnages qui combattent que d'habitude. Hein. Parce que c'est très drôle de voir les dynamiques différentes qu'il y a dans le manga Akari, t'as aussi... même si je trouve Itadori, techniquement, sur la plupart du manga, ses combats sont pas forcément super... impressionnant, mais quand tu regardes Akari, Gojo, Yuta même, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que en termes de scénario, c'est waouh, c'est super super classique quoi. Je compte pas défendre JJK plus que ça, mais je pense que la hype est un peu méritée quand même. Je pense pas que ce soit un truc les gens ils sont beaucoup trop hypés pour un manga animé qui est vraiment pas ouf que... Voilà, quoi.
Alors, en vrai, moi, je compte défendre JJK, et du coup... Non, mais après, en fait, en soi, je suis d'accord sur le fait que l'intrigue de base, oui, elle est assez classique, on la retrouve dans énormément de choses, mais je trouve qu'on voit qu'il y a quand même une spécificité de JJK que je retrouve pas partout. Comment dire? C'est le fait que, déjà, l'ambiance, elle a drastiquement changé d'un coup à un moment dans le manga. Au début, c'est drôle, c'est mignon, haha. D'un coup, ça devient horrible. Et puis, en fait, alors après, ça, je sais pas si c'est positif ou pas, mais il y a beaucoup, comment dire, je pense que l'auteur, il se base beaucoup sur des effets chocs dans certains de ses retournements de situation. C'est des trucs souvent très choquants. Et c'est toujours plus. Et comment dire, et des fois, je trouve qu'il y a des choix quand même assez... ouais, que tout le monde n'aurait pas forcément fait en tant qu'auteur dans son histoire.
Ah et oui, moi, la fanbase qui veut assassiner son auteur, littéralement.
Ouais. Ouais. Mais tout le monde le déteste, on n'en peut plus. Genre, vraiment, la fanbase veut que le manga se finisse.
Ah oui, c'est... Ouais,
on n'en peut plus. Je suis
aussi,
dans la fanbase.
L'auteur aussi veut en finir.
En vrai, c'est vrai que ça peut être considéré comme un point positif, parce que, étant donné que le plot principal n'est pas forcément super original, qu'ils se mettent dans le chemin des combats et que ça change le combat entièrement, et qui est du coup le plot armor, donc que j'explique rapidement. Plot armor, c'est juste le fait que il y a en général les protagonistes dans les mangas et même les personnages secondaires gentils dans les mangas et animés, ils sont protégés par un combat, dans un combat par l'auteur, c'est-à-dire que même s'ils sont dans une situation vraiment désespérés, ils vont forcément gagner, et c'est quelque chose qui peut rendre les combats moins intéressants, parce que tu connais déjà la suite de l'histoire, quoi. Alors que c'est vrai que dans JJK, c'est beaucoup plus imprévisible, et même si, bon, je suppose qu'on peut considérer qu'Itadori a quand même un peu un plot armor.
Bah oui et non, je sais pas trop.
Voilà, quoi.
Peut-être, mais je sais pas trop. Après, en fait, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est que l'univers dans JJK, il est plus complexe que ce qu'on pense au premier abord, ce qu'on pourrait penser au premier abord, je trouve. Et t'as quelque chose à dire, Pierre ?
Non, rentre, vas-y.
Bah si, je t'en prie, t'as pas parlé jusque-là.
Non, mais en fait, moi, comparé à vous, je suis pas à jour sur les scans. Mais après, à première vue, sur ce que j'ai vu, je rejoins un peu l'idée de mon comparse Mathieu, hein. C'est que... Bon, on a un trio, deux mecs, une meuf, un sensei super cool, aux cheveux blancs, avec qui cache ses yeux.
Non, mais ça,
dont le personnage principal est possédé par un démon à 20 doigts. Ça j'ai déjà vu. Oui, leur pouvoir, c'est une attaque commune à tous les personnages. Bon,
on
pourrait appeler ça Bankai, ça serait la même chose.
Honnêtement, c'est vrai que je rejoins Mathieu sur un point, c'est que la première saison est pas si incroyable.
Par contre, l'auteur est fan de Bleach, de Jujutsu Kaisen. Je sais pas si
ça s'inspire des plus grands, bizarre.
Non, c'est juste pour te... Du coup, tu penses quoi de JJK maintenant ?
Non, mais JJK fait les choses très bien, sinon. Okay. Enfin, ça fait tout très bien, mise en scène, combat, personnages. Ouais. Enfin, on les aime tous.
Exactement.
Le dessin.
En plus, ils sont très iconiques, que ça soit dans leurs attaques, leurs pouvoirs, même leur démarche ou leur façon de communiquer entre eux, interagir entre eux. Donc, moi, je trouve que ça fait tout très bien. Après, oui, que ce soit pas novateur, mais ça, c'est pas forcément d'importance. Hein.
Ouais, c'est pas révolutionnaire si grave, c'est à chaque pas fois. Révolutionnaire, hein. Je veux dire, il y a des œuvres qui sont pas révolutionnaires et qui sont pourtant très très bien.
Okay.
Et moi, ça me choque pas. Hein. C'est pas si grave au final, tant que c'est bien. Et puis après, je pense que ce qui aide beaucoup pour Jujutsu Kaisen, c'est qu'actuellement, il y a une hype gigantesque. Il y a vraiment l'effet de communauté.
Oui, c'est clair.
Tout le monde en parle tout le temps, de tous les trucs. Tout le monde veut savoir la suite. Du coup, soit ça t'encourage à être dans le truc aussi. Donc voilà. Juste pour préciser, du coup, on parle de Jujutsu Kaisen, ce qu'on n'aime pas trop présenter.
Ah, oui.
On parle de Jujutsu Kaisen, qui est un manga qui est écrit par Gege Akutami depuis 2018.
GG.
Oui, ça doit être ça. depuis 2018. Si vous voulez lire le manga, il y a la BD BDEC, donc n'hésitez plus.
Régulièrement mis à jour.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Venez le lire avec nous. Est-ce que quelqu'un a un autre avis sur Jujutsu Kaisen, envie de rajouter quelque chose ?
Non.
Ou de cracher sur Mathieu.
C'est clair que depuis tout à l'heure, on défend JJK, mais du coup, t'as pas pu trop répondre à ce qu'on disait.
Bah, après, moi, j'arrive à un stade où j'ai vu pas mal de mangas depuis le temps, et je cherche un peu la nouveauté, donc forcément, quand j'ai vu ça, ça m'a moins intéressé.
Okay.
Après, forcément, si un phénomène de hype autour est forcément justifié, enfin, pour qu'une si grande partie de la population apprécie le manga, c'est qu'il y a des qualités, je mets pas ça en doute, absolument pas. Juste, voilà, c'est...
T'inquiète, t'es pas un interrogatoire.
Non.
Tu as le droit de
tu as le droit de dire que c'est de la merde.
Ouais, c'est ça un peu qui m'a...
Tranquille, mais...
Un truc que je trouve très intéressant avec ce manga, c'est que je me suis absolument pas vraiment attaché au personnage principal, genre Itadori, vraiment, je n'ai pas rien à faire de...
Dur,
je sais pas, il est vraiment genre... lambda as fuck, quoi, mais ouais. Alors que les personnages secondaires, au contraire, je vis pour eux, littéralement, quand j'ai lu ce truc. Et bon, malheureusement, Gege ne voit pas les choses de la même manière que moi, mais on parle de plot armor, justement. Il n'y a pas de plot armor, c'est très intéressant. C'est bien d'avoir des œuvres sans plot armor, c'est vraiment. Il faut, parce que le syndrome fairy tale, il y en a marre, quoi.
Ouais.
il faut en parler. Aïe. Mais du coup, oui, ça nous fait. Ça rend triste, quoi. Et ça donne envie de menacer l'auteur. Mais après, l'auteur a raison de le faire. Mais...
Enfin, il n'a pas forcément tort de le faire, plutôt.
C'est ça, voilà. Mais on va dire, ça, voilà, ça montre que personne n'est en sécurité. Et au moins, tu sens que quand il y a une baston, bah.
Il y a vraiment des enjeux.
Voilà, vraiment, genre, bah, ouais. Ta vie est un enjeu.
Non, mais c'est ça, à tout moment, tout le monde peut y passer là-dedans. Personnellement, je pourrais parler des heures de Jujutsu Kaisen, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Melwan, est-ce que tu as un avis, un unpopular opinion, à propos d'une œuvre
Alors,
que tu peux nous partager?
Au début, j'avais pensé sur une œuvre en particulier, mais le truc, c'est que, généralement, quand une œuvre ne m'intéresse pas, je vais juste pas la lire, en fait. Donc, je vais pas trop réfléchir et je vais pas non plus dire, bah, en fait, c'est de la merde alors que je l'ai pas lu. Mm-hmm. Donc, je vais plus faire sur un genre en général. C'est la romance dans les mangas. Il y en a beaucoup. C'est super kitsch. C'est tellement fantaisiste. Et franchement, c'est quelque chose que je trouve horrible à regarder, généralement.
Horrible, carrément.
Horrible,
carrément.
Ferme les yeux. Le mec, il saigne des yeux.
Ah non,
mais genre, dans
t'as l'amour, quelle horrible chose.
Non, non, mais trop dark.
Tu viens d'insulter tous les shoujo. Hein.
Non, non.
Mais t'es un malade. Mais... Ça va pas.
En fait, non, mais bon, j'ai été un peu dur sur mes mots.
Horrible.
Ça veut pas dire que je ne pense pas, mais j'ai été un peu dur. Mais c'est juste qu'en général, sur les romances, c'est très idéalisé. Et même sur des. Et ce que j'aime pas, c'est quand, du coup, l'entièreté du manga, de l'œuvre, est basée sur une romance idéalisée qui n'est pas du tout réaliste et auquel bah, je me dis, bah, ça pourrait jamais arriver. Et même si je trouve ça incroyable et cool, bah, le problème, c'est que je ne m'identifie pas et je ne trouve pas ça très. Comment dire, pertinent. De se focaliser sur quelque chose qui n'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin d'un manga de romance comme ça, je retire rien, quoi. C'était juste de la fiction pure et dure pendant je sais pas, plusieurs tomes, sans vraiment un seul aspect de la réalité qui est exposé, quoi. Donc,
tu trouves ça très cucu, quoi.
Ouais, voilà.
Alors, moi, je pense que tu n'as pas forcément lu les bonnes œuvres déjà pour
oui,
commencer.
Non, après,
parce
je stigmatise moi, pas tout.
En tête, j'ai des œuvres qui sont basées sur de la romance qui ne correspondent pas du tout à ce que tu veux
oui,
dire.
Oui, 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 bien évidemment.
Ça après, ça existe aussi des trucs archi cucu, oui. Archi
non, mais c'est juste
idéalisés.
Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus présent que comment dire, j'ai.
Mais t'as quoi en tête quand tu dis ça? T'as une œuvre en tête?
Je dirais.
Pour exemple.
Comment dire? Alors, j'ai pas d'œuvre en tête, mais j'ai beaucoup de styles d'œuvre en tête. Donc, genre, par exemple. March Comes In Like a Lion, je crois. Je crois que c'est ça.
Je connais pas.
Ah oui. Bah, oui, après, forcément. Bon, ouais, c'est, après, c'est très. Il y a beaucoup de mangas différents.
Ouais,
donc,
non, c'est sûr.
C'est sûr. Donc, c'est juste que je trouve que les romans sont trop idéalisé, et même sur des animés, enfin des mangas et animés qui sont très très connus, mais qui sont pas forcément sur la romance, par exemple, genre je sais pas, Naruto ou des
oui, non, mais là, c'est du foutage de gueule dans Naruto,
ou dans trucs genre Naruto, Bleach et tous ces trucs là. Je trouve que la romance est beaucoup trop idéalisée, et que en fait, c'est juste le mouvement général de faire une romance parfaite, un amour pur. Et qu'il y ait toujours. Enfin, que ce soit pas remis en cause, quoi.
Mais justement, ça, c'est rarement comme ça que ça se passe, en fait, dans les mangas de romance. En général, les personnages principaux, ils sont souvent un peu soumis à des épreuves dans leurs relations, qu'ils doivent dépasser, des préjugés sur l'un, l'autre et des trucs. Parce que c'est vrai que si, genre, ils se mettent ensemble au début, et après, c'est tout. Ah, remarque, il y a des mangas qui font ça, genre.
Ah oui, Orimiya, non, ok,
exemple,
non, attends.
Et Orimiya, c'est très très bien.
Oui, Orimiya, oui.
Et
oui.
Ça raconte comment, bah voilà, c'est deux.
Oui, non, mais c'est clair. Mais après, c'est sorti
très
quand.
Tous les deux.
Orimiya, c'est sorti très récemment.
C'est
et
pas très vieux, ouais.
Donc, c'est plus tous les mangas qui sont venus avant, et je mm-hmm. pense aussi à des trucs genre. C'est. Je pense notamment à des trucs aussi Toradora que je trouve, même si c'est un peu vieux. J'aime beaucoup Toradora.
J'ai pas trop aimé Toradora.
C'est super. Enfin,
j'ai beaucoup
j'ai
aimé.
J'ai pas accroché, j'ai arrêté.
C'est
après,
un truc qu'il faut regarder deux fois pour réussir à voir les
instants. Ouais, voilà, c'est ça.
Il y a des trucs entre les personnages, en vrai.
C'est plus ça, mais voilà.
Quoi. Je connais pas trop, malheureusement. Mais après, d'un autre côté, je me dis, oui, il y a des mangas où il y a des choses... Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien.
Oui, il y a des mangas où il y a des choses... Enfin, pas des choses bizarres, ça m'a perturbée. Non, il y a des mangas où il n'y a que de la romance un peu cucu, etc. Mais d'un autre côté, bah juste, c'est cool à lire, en fait. Bon, toi, t'aimes pas. Mais juste, en vrai, c'est juste cool à lire. T'es comme ça, t'as des personnages qui sont en mode de, full mignon, là, et vivent leur petite vie mignonne. Et toi, t'es content, tu vois. Et des fois, t'as juste envie de lire un manga où t'es content devant. T'es en mode, oh, et c'est tout. Et après, tu fermes le livre et tu vas...
Retourne à ta vie.
Je voulais pas le dire, mais
la vieille vie romantique là où il y a pas de.
En gros, voilà. C'est ça. Mais voilà. Sinon, en manga de romance que j'aime beaucoup, que je peux conseiller. Alors, c'est pas vraiment un manga de romance, mais il y a de la romance dedans. C'est Nana et c'est pas drôle et c'est pas très mignon.
Takumi.
Arrête, j'ai des sueurs froides rien que d'y penser. Donc, il y a des choses pas très mignonnes qui se passent dedans. Et sinon, un truc beaucoup plus mignon, c'est Blue Flag. J'en ai déjà parlé, je crois. Bref, c'est trop bien.
Oui, non, mais bon, c'est
mais après,
il y a des exceptions.
Après, il y a des gens qui aiment pas l'amour, qui aiment pas la romance, qui aiment pas être heureux, quoi. Mais ça,
c'est
votre problème. Ouais. Je vise absolument personne.
Non, mais il y a pas de problème. Non, mais
pas de problème.
Il est une larme.
C'est ça.
Ce genre de relation et de représentation d'une relation amoureuse, ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est 500 Days of Summer, je sais plus c'est quoi le nom en français. Mais en gros, toute l'histoire, c'est juste un mec qui vit dans une autre réalité dans laquelle tout est... Enfin, sa copine est super heureuse avec lui et qu'à chaque fois, c'est très romantique et tout. Et du coup, il est très déçu dès le moment où il se rend compte c'était jamais aussi important, c'était jamais aussi pur, c'était jamais aussi romantique, c'était jamais aussi comme la fantaisie qu'il avait imaginé tout ce temps-là. C'est pour ça que...
Il est déçu par la vraie vie.
Il est déçu par la vraie vie ça fait mal de voir que genre... tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, c'est juste faux en fait, et c'est une pure fantaisie qui s'est créée lui-même, quoi.
Non, mais en vrai, je suis d'accord que la vraie vie, c'est pas comme dans les livres. Oh non!
Wow. Oui, mais, non, mais c'est... Oui, voilà.
Et c'est vrai que la plupart des romances qui sont montrées, genre adorables et tout, en vrai, c'est dur de faire pareil. Après, faut en avoir conscience. Hein. Il faut prendre le livre pour ce qu'il est et te dire bon, tu passes un bon moment. Toi derrière, ça ne t'arrivera pas.
Est-ce que le but de la lecture, c'est pas de s'évader, justement?
Oh là là! Trop bien ce que tu viens de dire.
C'est tellement beau.
C'est beau.
Un truc de fou. Pierre, quelque chose à rajouter?
Ah non, moi, l'amour.
Toi aussi, t'es allergique à l'amour.
Bah,
c'est... Ah.
Mais peut-être que tu n'es pas allergique à la haine, donc dis-nous un unpopular opinion, c'est à ton tour.
Alors, préparez-vous.
Oula.
Vas-y.
Moi, je vais vous parler de Made in Abyss.
Oula.
Je pense que Made in Abyss pourrait être un des meilleurs mangas de tous les temps si l'auteur-dessinateur n'avait pas des goûts de chara-design désastreux, en l'occurrence.
Je suis d'accord.
Voilà. Est-ce que, Mathieu, tu pourrais rebondir là-dessus, peut-être présenter l'œuvre, hein, parce que moi, je ne l'ai pas lu.
Moi non plus, je ne l'ai pas lu, mais je
l'ai... Oh, en plus, ça critique des choses que vous n'avez pas lues, quoi. Non, mais vraiment.
Alors...
Il y a quoi de mal à critiquer?
J'ai lu le premier tome, mais enfin, Ricola, là, c'est pas possible.
À partir du moment où tu as commencé à parler de Made in Abyss, j'étais sur le point de le défendre, jusqu'à ma mort. Et ensuite, tu as parlé du chara-design,
Tu dis plus rien.
Voilà, je m'incline et je ne peux qu'accepter. En fait,
Made in Abyss, rapidement, c'est une histoire sur des enfants qui vont s'engouffrer dans littéralement le grand gouffre du monde, qui doit faire des centaines de kilomètres de profondeur pour partir à la recherche de la mère d'un des enfants. Et c'est un endroit très dangereux. Il faut avoir des compétences d'explorateur, on appelle ça des caverniers, c'est-à-dire des gens qui sont... Le métier, c'est de s'aventurer là-dedans pour... découvrir des trésors, des artefacts, alors qu'il y a des monstres partout, des conditions de vie qui sont extrêmement terribles. Et donc là, tu vois deux enfants qui évoluent là-dedans, tu te dis comment ils vont survivre. Et bah on verra. Mais oui, du coup c'est un manga qui a un style de dessin qui est très enfantin, qui contraste beaucoup avec la réalité très dure qu'elle présentait, notamment bah,
oui, c'est pas parce que c'est des enfants que vous allez pas avoir des tripes, hein.
Voilà, ils vont prendre cher, quoi. Et oui, l'auteur a peut-être littéralement un penchant particulier, on va dire, sur un certain style de dessin qui devrait être interdit en France. Je pensais que c'était interdit en France, je sais pas comment ça peut être publié d'ailleurs, mais
je crois que parce qu'il y a des scènes très explicites, hein. Mais dès la page de couverture d'ailleurs.
Voilà.
En fait, pour être vraiment très clair, l'auteur, il a été accusé, voire condamné, ça je sais plus, pour de, je crois que c'est une chose de l'ordre de la pédocriminalité ou de la détention d'images à caractère pédopornographique, ce genre de choses.
Voilà.
Donc, super cool, Made in
Abyss. Et ça se ressent dans son œuvre. Voilà.
Disons que dans l'œuvre, c'est très rare les scènes où il se lâche. Enfin, c'est jamais. Je sais pas comment dire.
Il y a rien. Je pense qu'il y a rien de explicite.
Il y a rien de choquant, mais
ça influe pas sur la qualité du manga en lui-même, mais enfin comment dire, la qualité de l'histoire et puis sur les dessins dans le manga lui-même, c'est pas forcément présent, omniprésent, quoi. Mais
une scène ou deux, tu hausses un sourcil.
Voilà, quoi.
Pas plus. Après, voilà, faut pas regarder les pages sous les couvertures.
Voilà, quoi. C'est tout ce qui est en dehors qui est problématique et un peu à l'intérieur aussi.
Ouais. Mais est-ce que vous pensez pas que justement, si on change le chara-design, est-ce que ça serait pas genre un truc de fou malade?
Quand tu dis change de chara-design,
c'est genre un truc classico.
Genre, c'est pas des enfants, mais des ados.
Ouais, c'est Itadori et les autres.
Il hein. Bah, y aurait moins le côté.
Et Gégé, il les a fait passer par tous les états. Bref.
On parlerait le côté choquant entre les images très rondes, avec des formes très rondes pour montrer
Chibi, tout ce qu'on
porte, ouais, mignon, avec la mort, quoi.
Ouais, voilà.
Littéralement.
Je dirais que ça changerait beaucoup de choses, parce que ouais, c'est vrai que genre voir des enfants, et même c'est exprimé plusieurs fois, mais des enfants sont pas censés être exposés à des dangers pareils, des dangers de mort omniprésents dans un truc très hostile. Et c'est pas comme si c'est n'importe qui dans le gouffre est exposé à des dangers. Donc le fait que ce soit des enfants, ça permet un peu de vraiment, choquer, mais en même temps, c'est pas le seul but. C'est pas le seul but de choquer, mais ça met vraiment les protagonistes à bout, quoi.
Après, même si c'est une œuvre très bien, je sais que personnellement, je me sentirais assez mal à l'aise de la lire, ouais. Sachant tout ce que je sais.
Voilà.
J'aurais du mal à la lire.
Voilà.
Et surtout que c'est un truc qui, quand même, enfin, c'est archi violent, faire des enfants, du coup. Sachant tout ce qu'il y a à côté, je me dis j'irai pas lire ça perso. Pierre, est-ce que t'avais un autre truc à nous dire? Je sens que t'avais dit
sur Made in Abyss.
Made in Abyss, pas forcément. Sur Made in Abyss, mais... sur autre chose, je crois que t'avais dit que t'avais.
Sinon, j'en ai un deuxième. Vas-y. Et pour là, c'est l'inverse. C'est, je pense que les mangas / animés de mecha sont complètement sous-cotés, juste par leur attrait visuel, justement là.
Tellement.
Et pour preuve. C'est qu'un des meilleurs, enfin un des mangas les plus connus que tout le monde connaît de mecha, que vous adorez tous, il s'agit de, petite idée,
Evangelion.
Big Gundam.
SNK. Bah, c'est un animé de mecha. Ils arrivent, ils se transforment, ils ont leur mecha là, ils se battent dedans, ils sont littéralement dans le mecha.
Mais c'est littéralement pas un mecha.
SNK est un animé de mecha.
T'es en train de comparer genre le titan bestial à Gundam par exemple.
Bah oui, complètement, il rentre dans son truc, c'est pareil. C'est exactement pareil.
On est en train de dire que l'Eva Zéro.
C'est de la géopolitique, les enfants garés, c'est toutes les mêmes thématiques que Gundam.
C'est vrai que j'ai beaucoup de mecha en tête et genre le peu de mecha qu'il y a réellement, ils sont tous d'une qualité incroyable, genre Gurren Lagann, mais c'est seulement un animé, et puis il y a Code Geass aussi, et puis il y a Evangelion, et puis on peut peut-être considérer SNK
à discuter.
Ouais, je suis pas trop d'accord, mais ok, j'entends les arguments.
Ah, vous êtes pas d'accord, vous?
D'accord.
À propos de quoi? Moi je trouve que c'est cool, les mecs, j'aime trop, mais...
Moi je pense que c'est juste les gens aiment trop le sang et la chair.
Okay.
Et je pense quand en fait ils voient un mecha de base, ils pensent à Transformers ou des petites figurines. Parce que pour rappel, hein, c'est des figurines Gundam. Hein, on rappelle que la licence fait plus de chiffre d'affaires que Dragon Ball, Barbie ou Batman, j'en sais rien. Alors c'est dans le top 10 des licences qui génèrent le plus d'argent.
Alors que le, l'anime a arrêté, enfin le manga et l'anime a arrêté de, d'être diffusé il y a des années, quoi. Enfin,
en tout cas, y en a plein. Gundam, ça marche en, en série qui se sont sur une timeline, mais qui se suivent ou qui se suivent pas. C'est pas sur la suite. Vous pouvez commencer à n'importe laquelle. Il y a des dizaines de séries, mais c'est souvent toujours. Alors c'est toujours un peu la même thématique, c'est-à-dire c'est les enfants guerriers, c'est-à-dire enfants, étudiants, enfin des jeunes personnes à qui on peut s'identifier, qui partent à la guerre. Après, c'est des conflits géopolitiques, ça parle de terrorisme, de, d'inégalités socio-économiques, de partage de ressources, etc. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est très souvent très politique, plus que shonen.
Ouais, bon, après, la définition directe de mecha, je sais pas s'il y en a vraiment. Et je pense pas que ce soit un blasphème de considérer SNK comme un anime, enfin comme un.
Vous pensez pas que c'est un blasphème ça?
Je pense pas que c'est un blasphème.
Allez voir un mec dans la rue.
Oui, oui.
T'aimes SNK et t'aimes Gundam, il va tout de suite.
Pareil. J'aurais jamais.
Ouh là 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 là.
Dire que SNK c'est un truc de méca. Bon, ok. Mais pourquoi pas, hein? Enfin moi ça me, moi j'aime bien les deux. Du coup au final je suis pas outré quoi, mais.
Oui voilà.
Mais
parce que ça, quand je le dis, normalement...
Le lien se fait pas directement dans ma tête.
Ouais, voilà.
Ça décroche des mâchoires.
Non, alors... Non, j'irai pas te taper dessus parce que t'as dit que SNK, c'était un truc de méca. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un a un autre avis à partager?
Non.
Ou alors je donne le mien?
Vas-y.
Moi, c'est un avis sur One Piece.
Oh, ouf, ça commence fort.
En fait, One Piece, c'est vrai que j'ai lu genre une cinquantaine de tomes. J'aime bien, mais des fois, j'avoue, je me fais chier. Je m'ennuie un peu. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de combats qui ne servent à rien. Qui sont... En fait, le truc, c'est que c'est un peu le principe de One Piece d'avoir énormément de combats contre des tas de personnages et tout. Mais en fait, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de combats où je sais qu'ils vont les battre et qu'on va avancer et qu'au final, ils vont aller taper le méchant final et tout ça. Après, ça fait un autre arc, il va y avoir d'autres intrigues qui m'intéressent plus. Bon, en tout cas, en gros, il y a une grosse partie de ce qui fait One Piece qui ne m'intéresse pas vraiment, à savoir. Les combats tout le temps, que je trouve longs et que je suis en mode, allez, la suite qui m'intéresse, ça m'intéresse pas, voilà.
Après, est-ce que, t'as découvert One Piece et tu regardes les combats sur le manga ou l'anime?
Non, le manga, je regarde pas.
Ok, parce que, bon, c'est...
L'anime, c'est encore pire.
Voilà, ouais, c'est abominable,
c'est abominable.
Oui, c'est autre chose, mais... c'est pas forcément les combats... C'est pas à la Jojo, c'est pas à la HXH. Donc, mais c'est après, techniquement, le manga a plus de 20 ans et c'est l'un des classiques. Donc,
Ah, mais je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis juste que moi, il y a des trucs qui me plaisent pas plus que ça. Je suis en mode, bon, ce sera pas mon manga préféré, One Piece. Voilà, c'est tout. Mais c'est un manga que j'aime bien quand même et que je compte finir. Hein,
Oui, non, bah.
Je ne détestais pas One Piece. Je pensais que ça allait provoquer plus de réactions que ça. Et en fait, non. Vous êtes
C'est juste que, en soi, c'est faire parce qu'à côté, t'as beaucoup de mangas animés avec justement. Tu disais que t'aimais pas le fait que tu savais qu'il allait battre les méchants et puis, aller plus loin. Genre, si ça te plaît pas, c'est normal parce qu'à côté il y a JJK justement, ouais, Jujutsu Kaisen, où l'issue est beaucoup plus incertaine quoi.
Donc non,
en soi faire, honnêtement faire un off.
Après je reviens ton idée sur les combats. Il y a quelques années j'aurais pas été d'accord avec toi je pense, mais depuis les derniers arcs c'est vrai qu'on commence à avoir un peu ce plot armor de l'équipage des chapeaux de paille qui dès qu'il combat un ennemi il y a même plus de... Ils nous mettent une case ou deux, on montre qu'ils sont en difficulté, on montre autre chose, on revient genre 2-3 chapitres plus tard, ils one-shot l'ennemi, en mode oui, finalement, combat pas difficile. Hein.
Je suis au tome 50, c'est déjà ce qui se passe à peu près chaque combat. Donc,
Moi, je me rappelle surtout de la fin de Wano et Onigashima. J'ai trouvé un peu que c'était un désastre, la fin d'Onigashima, enfin, comment ça s'est fini. Après, je sais que l'auteur avait été rush.
La fin d'Onigashima était longue.
C'est parce que Wano, c'est pas l'arc le plus long, tout simplement.
Si.
Ça a duré combien de temps? C'est aussi long que la guerre des ninjas, ça.
Je veux dire, Onigashima, vraiment, ce qu'ils avaient introduit avec Kaido, c'était incroyable. Et ils ont fini ça d'une manière qui est vraiment... déplaisante. Je veux dire, ça a été rushé à la fin pour juste, on dit bon, allez, on fait tomber les généraux pour faire avancer l'histoire et t'as introduit plein de personnages qui sont censés être des murs et au final, c'est quoi, c'est un escalier, genre tu enjambes le truc et c'est fini. Enfin, ils ont jamais été en situation de danger à chapeau de paille, à part peut-être Luffy contre Kaido, mais
oui.
les autres, vraiment, les généraux, ils étaient en mode, on s'en fiche, en fait. Hein, c'est en mode, bah, super, c'est quand même un empereur. Mais bon, ok, pas assez important, apparemment, que c'est les empereurs.
Oui, non, bah, après, c'est un peu le problème des mangas aussi longs, c'est d'essayer de garder la pression sur, comment dire, un combat, et être en mode... Peut-être, je dis bien, peut-être il va perdre. Et c'est compliqué de faire ça, H24, avec, comment dire, alors que t'as déjà fait ça 40 fois et où le personnage principal a eu 56 transformations d'upgrade. Enfin, ouais. Bref.
À un certain point, tu sais qu'il va pas perdre. Et ouais, voilà. D'autant plus quand t'es comme moi et que tu commences le manga alors qu'il y a déjà plus de 100 tomes de sortie. Je suis au tome 20. Non, tu vas pas me faire croire qu'il va mourir maintenant. C'est pas vrai. Ouais. Ça ne marche pas sur moi. Enfin, pas à ce moment-là. Je pense que les gens, quand ils ont lu au fur et à mesure, peut-être, oui. Et là, ouais, je ne suis pas dupe. On ne me la fait pas, moi. C'est un avis, Pierre.
Non, moi, non, sur One Piece.
Pas d'avis ?
Non. Ouais, très pire que le tien.
Ah ouais,
oula, d'accord. Okay. Oh là, partagez-nous,
Pierre. Ah non, 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 spoil, no.
D'accord. Okay. Bon, et ben, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de passer à la suite de cette émission. Donc, on se revoit tout de suite. On reprend tout de suite.
Très calmement.
Ambiance cocooning.
Ambiance cocooning. Sympa la petite musique. Maintenant, pour la suite de l'émission, maintenant qu'on a bien exposé nos propres avis, on va pouvoir juger ceux des autres. Du coup, j'ai préparé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher sur Internet, sur des réseaux tels que Sens Critique, Reddit, Twitter, des avis négatifs sur des œuvres que je sais que les gens autour de cette table aiment bien. Et comme ça, je vais pouvoir un peu les confronter. Ça va être un peu comme un octogone, en fait, sauf que la personne qui a écrit l'avis n'est pas là.
Et Dark Killer XX du 44, si je te trouve, comment...
C'est ça. Je propose qu'on commence par Gun, qui est donc... peut-être que tu veux présenter Gun rapidement, sans faire trop de résumé, mais juste en quelques mots.
Ah, Gun, c'est compliqué à résumer, mais on va dire que c'est basiquement l'évolution de Gali, un cyborg, dans un monde post-apocalyptique, et elle n'a aucun souvenir, puisque... Bon, pour plusieurs raisons. Et on revoit un peu son évolution dans cet univers qui est totalement terrible. Et tout ce qui est l'importance de qu'elle était dans son passé, tout ça, c'est très beau.
C'est ça. Ça. Et en plus, c'est considéré un peu comme un classique des seinen, genre du style cyberpunk, post-apocalyptique.
Post-apo, c'est un des classiques de ce genre-là.
C'est vraiment considéré comme ça assez largement. Eh bien, j'ai trouvé... des avis négatifs sur Gun. Bon, j'en ai pris un en exemple. Un peu, parce que je sais que ça va embêter Mathieu, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc c'est à propos des dessins. Donc c'était sur Sens Critique cet avis. Je vais te lire ce qu'a dit cette personne. Eh bien, je ne leur ai trouvé rien de charmant à propos des dessins. Un regard averti et attentif sera, je pense, forcé de reconnaître que Gun n'a pas sa place parmi les trois premiers déciles de ce qui se fait de meilleur graphiquement parlant. Parmi les seinen de l'époque ou bien d'aujourd'hui, c'est au-dessus de la moyenne, cela je l'entends bien, mais ça n'est qu'au-dessus de la moyenne. La chose n'est pas méritoire en soi. Et il y a ce qu'il faut de détails, un style personnel, mais dire qu'il y a bien plus que cela, ce serait déjà se fourvoyer. Et en gros, dans son avis, c'est très très long, c'est sur Sens Critique ou c'est une critique complète, je ne l'ai vraiment pas mis en entier, il explique que Gun, en gros, c'est rien de plus qu'un shonen mieux dessiné que les autres et plus violent que les autres. Et qu'il n'y a rien de bien transcendant là-dedans, que c'est assez paresseux dans le récit, et qu'il fait quand même une bonne mention de l'arc Motorball, qu'il estime comme étant le summum, genre le pic du manga, mais il dit le problème, c'est que ça veut dire que quand t'as dépassé ce pic, bah après ça devient moins bien. Non, mais... et voilà, donc c'est un peu ce qu'il a dit, Et en plus, il a dit que la Shogun, il était pas si beau que ça.
Si, juste,
c'est
si
pas vrai, il a pas dit ça sur
qui parle mal de la Shogun.
Si je me rappelle bien, Gun, enfin Alita Battle Angel,
ouais,
Alita Battle Angel, donc un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et donc l'adaptation en film de Gun.
Exactement.
Donc, vous voyez à peu près ce que c'est si vous avez vu le film. Ouais.
Allez, pour ceux qui se demandent pourquoi Alita, parce que les Américains n'étaient pas d'accord avec le nom japonais du personnage principal qui est Gally, ils disent ça sonne pas bien, on veut Alita. Du coup, ils ont mis Alita.
Voilà.
Demande aux Américains.
Parce que Gally, je crois que c'est expliqué dans le tout début du manga, mais c'est un nom que Ido il choisit un peu pas au pif. Je crois que c'est le nom de son chat ou je sais pas.
C'est le nom de son chat qui est mort.
Voilà. Mais en fait, c'est que Gally, pour de vrai, c'est connoté comme étant un nom d'homme, genre pas un nom super beau en plus, je crois. Donc c'est pour ça que les Américains ont peut-être pas kiffé. J'en sais rien. Je sais pas.
Bref, alors, c'est vas-y. Pas le sujet.
Mathieu.
Alors,
qu'est-ce que t'en
penses? Bah déjà, évidemment, je suis pas d'accord. Mais
bah oui, je me doute bien.
Non, mais rien que dans la vie, tu vois, enfin, son arc préféré, c'est le motorball, mais j'aurais pu le deviner avec mon avis du début, en fait. Déjà, graphiquement, Gun, peut-être le premier tome, ça part un peu. Après, c'est un vieux style, hein, graphique, c'est vraiment style années 80. Donc,
Si
t'es habitué à des styles graphiques des années 2000-2010, ça va te faire bizarre. Après, moi, je trouve que c'est un style qui est magnifique, mais ancien. Mais c'est pas pour autant mal dessiné, c'est juste un style différent. Peut-être sur le premier tome, c'est un peu spécial, vu que c'est le début de l'histoire, l'auteur il cherche encore un peu le style de l'œuvre. Mais à partir du tome 2, 3, 4, 5, le style ne fait qu'évoluer, et c'est de plus en plus beau. Et pour moi, c'est un style qui est genre juste magnifique, parce que les visages, enfin les expressions du visage sont trop bien représentées.
Ouais, je trouve.
Là, tu ressens ce que les personnages ressentent, c'est fou. Et puis Gum, c'est un manga qui parle beaucoup de combat, du combat très tout ce qui est art martial... Enfin, ça s'inspire des arts martiaux, ouais. Donc on a un peu toutes les origines, beaucoup de l'Asie surtout. Et ils arrivent à faire remporter des mouvements dans les combats qui te font savoir si avec sa main il fait une rotation ou s'il fait des rotations avec son avant-bras, tout ça. Enfin, t'arrives à voir comment bougent les personnages quand ils se battent et à te dire ah oui, il détient un style différent ou pas. Enfin, c'est quelque chose de très dur à faire, de faire de l'action, et c'est quelque chose que l'auteur fait très bien. Donc, enfin, c'est du talent, juste. Donc, dire que c'est un style graphique qui est mauvais, non, mais peut-être que juste c'est quelque chose qui lui a pas plu, j'imagine.
Bah, ça doit être ça, certainement.
Certainement.
Je te sens un peu salé.
Non, mais je défends quelque chose que j'aime beaucoup, forcément. Mais
non, mais j'imagine.
Après, voilà, je suis d'accord de dire qu'un style années 80, surtout pour les premiers tomes, les derniers tomes, ça se rapproche plus du style plus classique. Ça peut paraître bizarre quand t'es pas habitué. C'est sûr que tu vas te dire, c'est mal dessiné ou.
Après, je pense que la personne qui a écrit ça, elle avait l'air d'avoir l'habitude de lire. Quand même beaucoup de mangas, de faire beaucoup de critiques sur plein de trucs et tout. Du coup, je pense que c'est pas tant la période, parce que elle dit même à un moment que ce soit genre parmi les seinen de l'époque ou ceux d'aujourd'hui, c'était pas si bien dessiné que ça. Non, non, non. Donc,
J'espère qu'il a pas lu Hunter x Hunter. Hein.
Oui, c'est vrai.
Bah, petit roman graphique. Light novel.
Je te jure que c'est un peu ça, c'est sûr. Bah, moi, ouais, je trouve ça un peu. Moi, je trouve ça triste qu'il soit passé à côté de ce qu'il y avait intéressant dans Gun. Enfin, pas qu'il soit passé. Parce que justement, il disait un truc dans son avis, dans sa critique. Il disait qu'il n'avait pas du tout l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Il avait l'impression d'avoir pris ce qu'il avait à prendre dans Gun, mais que c'est tout ce qu'il avait trouvé, sincèrement et tout. Et bah, moi, je trouve ça dommage que ça lui ait pas plu, parce que bah, c'est quand même vachement bien Gun. Mais... Mm. Et c'est très très cool. Et c'est bien dessiné aussi. Et Jashugan, il est très très beau. Et voilà.
Puis il y a un sens, il dit qu'il n'a pas trouvé le sens du manga, qu'il dit que c'est un shonen. Gun, tout le but de Gun, c'est de déterminer ce que c'est un être humain. Et bah, par rapport avec les cyborgs, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est l'esprit, c'est toujours des thématiques qui sont étudiées dans le manga au travers des transformations de Gally, parce que Gally change beaucoup de corps et bon, je ne vais pas spoiler, mais de choses. Et ouais, tu te dis, ouais. elle est humaine. Enfin, c'est toujours des questions qu'on te pose qui te font réfléchir sur. Dans un monde de futur, les robots, tout ça, qu'est-ce que l'humanité encore ? Et ça, c'est vraiment le message global, et c'est dommage d'être passé à côté, parce que ça fait réfléchir.
Ça, et puis ça fait suivre l'évolution de
Gaby.
De Gally, de ses questionnements, sa quête d'identité, etc. Et bah, en fait, rien que ça, c'est super intéressant, quoi, au final.
Donc, alors moi, je connais pas forcément très beaucoup. Mais en fait, de ce que j'en ai vu, moi, ça me rappelle comme c'est un shonen, ça me rappelle.
C'est un seinen, du coup, pas un shonen. En principe, c'est un seinen, oui.
Et en fait, le world design, comment le monde est. Ça me rappelle beaucoup, en fait, Ghost in the Shell, genre.
Oui, oui.
Une dystopie.
Oui,
oui. Cyberpunk.
Les deux sont très proches. Oui, oui.
Je crois que c'est sorti à la même époque à peu près les deux, non ?
Ça me fait plus penser à Astro Boy, par contre. Je sais pas trop, avec l'énorme... Enfin, j'ai que le film en tête, du coup, Alita Battle Angel, où il y a la ville parfaite.
Ouais.
Et en dessous, t'as la décharge et c'est les gens qui se battent pour leur vie. Ça me fait plus penser à Astro Boy, mais c'est vrai que Ghost in the Shell, ça marche aussi.
Oui, non, les deux sont très similaires. Enfin, ils absorbent. C'est pas les mêmes idées qui sont impliquées, mais dans le world design, on va dire que oui, c'est très proche, bien sûr.
Okay.
C'est sûr. Quelque chose à dire sur Gun ou pas ?
Non.
C'est bon, on passe à la suite. J'ai trouvé des critiques sur l'attaque des titans, donc. Sur SNK. Là, ça va plus parler à tout le monde parce que pour le coup, on a tous lu, on a tous vu certainement.
Oui, et puis il y a eu une énorme vague de haine contre la fin. Je n'ai pas compris pourquoi.
Vrai. Alors, moi, les critiques que j'ai trouvées ne parlent pas tant de la fin parce que je voulais éviter de trop spoiler la fin. Mais j'ai trouvé des avis négatifs. Donc, pas forcément négatifs, mais juste je voulais savoir ce que vous en pensiez. Il faut savoir que les avis que j'ai trouvés, je les ai trouvés sur Reddit et ils étaient tous écrits en anglais. Du coup, je les ai tous traduits de l'anglais au français.
Okay.
C'est pour ça que les phrases, elles sont un peu bizarres des fois. Mais je suis pas non plus excellente en anglais, quoi. Attention, il va y avoir des énormes spoils sur l'attaque des titans à partir de maintenant. Du coup, si vous avez pas lu la fin, que vous êtes pas assez avancé dans l'histoire, n'écoutez pas. Ou alors allez lire et revenez écouter. Parce que c'est un peu violent, voilà. Premier avis, rien n'est drôle à propos de Connie et de Sacha, même si ce sont des personnages comiques. La mort de Sacha la rend plus pertinente pour l'histoire que quand elle était en vie.
Wow.
Alors, sur le côté comique, chacun a son humour. Je dirais que c'était pas forcément... Enfin, c'était bien tenté, quoi. Bah, après, c'est pas un manga d'humour de base, mais c'est, l'intention est là. Et c'est pas... Non, enfin, en plus de ça, c'est pas forcément très kitsch. C'est pas oh, je suis foufou, je suis un peu drôle, tu vois. C'est un peu c'est un minimum réfléchi, quoi. Donc je dirais que est-ce que Isayama avait en tête de la tuer directement, enfin de la tuer au bout d'un moment, probablement. Mais est-ce que ça comment dire réduit la qualité du personnage? Je pense pas.
Non, justement, parce qu'au contraire, il dit que, dans l'opinion, là, c'est que c'est sa mort qui la rend vraiment pertinente pour l'histoire, mais qu'avant ça, si elle n'était pas morte, elle aurait servi à rien dans l'histoire. En gros, et qu'en vrai, c'est sa mort qui la rend utile à l'histoire.
En soi, pas forcément, parce qu'en plus de ça, étant donné que c'est un personnage unique, parce qu'il est très... son but est d'être humoristique. On peut voir son évolution à travers les événements du manga et à travers les événements très traumatiques, je dirais, qui se passent et toutes les révélations. Enfin, je vais pas aller plus loin, mais il se passe beaucoup de choses et ça peut montrer que même si Sacha était super drôle au début et puis en général aussi, le but de Sacha au début c'est bien d'alléger l'ambiance et ça permet aussi au lecteur d'être un peu détendu par rapport au monde, c'est pas très dark, et puis ensuite il y a les révélations et puis il y a plein de choses qui se passent et du coup ça montre à quel point la différence entre avant certaines révélations et après certaines révélations c'est et importante.
Bah moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Parce qu'en vrai, ça rigole pas beaucoup dans le manga. Il y a juste ces deux personnages-là qui sont un peu... Ça fait un peu bizarre, mais c'est la potiche, quoi. C'est la nunuche. Quand elle va parler, on sait que ça va être un truc pas forcément pertinent par rapport à la situation. Voilà. Donc ça permet d'alléger la situation qui se passe quand ce personnage intervient. Mais du coup, oui, c'est sûr que quand... personnage trépasse, d'un coup ça rigole plus. Hein.
Oui,
on sait que ça va plus rigoler.
Oui, c'est clair.
Non, mais c'est ça. T'as un truc à dire, Mathieu ?
Ça rigole pas une seule fois après ce passage dans le manga.
Non, il n'y a plus rien.
C'est bien pour établir une différence.
Et la question, c'est est-ce que c'est un drame que ça rigole plus ?
Est-ce que c'est
bien, pour moi ça va dans le sens du manga, c'est logique.
Ouais, pour moi c'est logique aussi. Et puis en plus, techniquement, ça peut être. Il peut y avoir un espèce de symbolisme à partir du moment où ça devient vraiment très sérieux, force le personnage humoristique qui allégeait les scènes, qui allégeait la situation en général, meurt, quoi.
Ouais, donc, non, mais c'est ça. Ça peut bah, en vrai, c'est en ce sens-là que je rejoins l'avis de la personne qui dit que, bah, en vrai, sa mort, elle est archi pertinente pour l'histoire.
Elle est archi pertinente, mais ça veut pas dire que le personnage ne l'est pas.
Ah non, 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 c'est sûr. Bah, c'est juste, enfin, comment dire. En vrai, oui, c'est ça, c'était un peu le personnage comique pendant toute l'histoire, et le fait qu'elle meure maintenant, ça a un sens. Le fait qu'avant, elle était là, ça avait un sens aussi.
Voilà.
Et au final, c'est vrai que bah, sa mort, elle a grave du sens. Hein. Pas heureusement qu'elle est morte, mais,
wow.
Mais j'irai pas jusque-là, mais
Isayama,
sa mort est très intéressante, voilà, pour l'histoire, je trouve. Et...
ouais, c'est clair.
Et surtout que, il disait qu'avant, elle avait rien d'intéressant, mais... bah, déjà, dans un régiment, t'as toujours les mecs sérieux, puis les mecs, c'est un peu plus goofy... enfin, naturel, on va dire, donc c'est normal d'avoir des gens un peu plus excentriques, enfin, pas excentriques, extravagants, on va dire.
Mm-hmm.
Puis même, Sacha a eu beaucoup de développement avant sa mort. Je veux dire, je me rappelle plus trop, mais il y a une scène où elle se débrouille avec un arc pendant plusieurs jours pour défendre une petite fille. Enfin, c'est. Et tu voyais Sacha ultra sérieuse, comment elle réfléchissait avec ses instincts de chasseuse qu'elle avait à l'époque quand elle était avec sa famille dans les campagnes. Enfin, non, c'est plus qu'un personnage pour l'humour, Sacha. C'est un personnage qui était capable de voir des choses que vous ne voyez pas aussi.
C'est plus un personnage humoristique qui est juste là pour mourir une fois que le manga devient dark.
Oui, parce que moi, elle serait morte avant de toute façon. Oui. Il était déjà dark avant le manga, il y a plein de personnages qui sont morts.
Oui, enfin, après, c'est. Bon, pour pas trop spoiler, mais. Le moment où elle meurt, c'est pas anodin.
Non,
quoi.
C'est vraiment pas anodin. Ça marque un tournant dans l'histoire, en fait.
Après, quand est-ce que l'histoire n'a pas de tournant?
Oui, c'est vrai.
Chaque épisode, littéralement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bref, voilà.
Donc... après, moi, je rejoins son avis où... moi, je n'ai pas esquissé un seul sourire sur ses interventions. Hein.
Chacun son humour, je sais
pas. Ah oui,
oui, voilà. Je la trouvais pas non plus excessivement drôle. En fait, SNK, je trouve pas ça vraiment 4
ans. Bah non, non.
Je me suis pas tapé une barre de SNK. Hein. J'ai pleuré ma race, mais j'ai pas rigolé beaucoup.
Je sais pas, Erwin, je le trouvais super drôle comme gars.
Ah ouais, c'est marrant, ça.
Même plus normal pour le bataillon d'exploration.
Dernier avis sur l'attaque des titans. Donc, toute l'histoire est concentrée sur l'intrigue, l'univers, le lore, etc. Donc, je trouve tous les personnages très oubliables. Pendant que je regarde l'attaque des titans, tout est ok, mais dès que j'arrête de regarder, je pense plus du tout à eux, ils ne me marquent pas.
Bah, juste le mec est antipathique, mais bon.
Le mec est vraiment antipathique.
Bah, en vrai, moi, je suis pas tout à fait d'accord non plus, mais quelque part, je suis assez d'accord de me dire que pour moi, ce qui fait l'intérêt de l'attaque des titans, c'est plus l'histoire, l'univers, l'intrigue et tout le scénario, le bordel qui se passe, plutôt que les personnages.
Bah, les personnages, le truc, c'est que pour que l'histoire ait du sens, il faut que les personnages aient des motivations plausibles et en général. Ils soient pas complètement inoubliables. Donc, je dirais que c'est un peu faux parce que c'est pas comme si l'histoire juste arrivait. Il y a des personnages qui mettent en place certaines choses, qui réagissent face à justement les choses qu'ils subissent. Donc, c'est ça qui fait un peu la qualité du manga. C'est pas juste l'histoire qui se passe et puis il y a les personnages qui sont là et ils sont impliqués.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais parce que forcément, qu'il y a des personnages dans une histoire.
Enfin, oui, non, mais plutôt, ils ont quand même un rôle dans l'histoire.
Oui,
quoi. Ils permettent. Ils le font bien, d'ailleurs. Je trouve. Eren, je dirais que du coup, c'est forcément le personnage le plus développé de SNK, mais il y en a d'autres qui sont aussi bien développés sans pour autant être. Inoubliable, quoi.
T'as un avis, Pierre?
Bah non, hein, complètement désastreux son avis. pour moi, SNK, je pense même dans 20 ans, tout le monde se souviendra. Bon, t'auras oublié 2-3 persos, mais enfin, Eren, la troupe, le Major, Levi, tout.
Oui, c'est vrai.
Classico.
Oui, c'est
un classique.
Oui, c'est clair.
C'est sûr. Mathieu?
Ouais. Il y a peut-être des personnages qui peuvent paraître, enfin ceux qui participent le moins à l'histoire peuvent peut-être être oubliables, mais encore une fois, l'auteur s'est débrouillé pour que chaque personnage ait un impact dans un moment tournant. Donc oui. On dit oui, SNK c'est le lore, mais bon, en fait le lore, enfin l'histoire, ça découle des actions des personnages. Donc voilà. Si t'aimes le lore, tu vas aimer les personnages te paraîtront importants forcément. Juste un truc à dire sur mon petit préféré, c'est Hansi Zoé,
okay.
Qui est présenté juste comme au début comme un personnage genre un peu plat, qui amuse les titans, qui est un peu fou. Et à partir du moment où on se rend compte que le vrai ennemi, c'est les humains, elle devient genre totalement blasée à H24, en mode, bah, elle se rend compte qu'affronter les ennemis, c'est beaucoup plus chiant, finalement. Elle a vraiment un twist dans sa personnalité qui est justifiée, mais qui est assez big, et
ça
la rend marquante de fou.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais oui, t'as raison. Bah, en fait, c'est ça, quand elle se rend compte que depuis le début, en fait, elle tue des gens. C'est un peu chiant.
Ouais.
Enfin, bref. Petite pause avant la fin.
Bah, pourquoi pas.
Petite pause musicale. C'est parti. À tout de suite. Cette émission. C'est reparti pour la toute dernière partie, le tout dernier avis, c'est la toute fin de cette heure passée ensemble. un avis maintenant sur Junji Ito, je l'ai choisi parce que je sais que Melwan aime bien, je connais un petit peu aussi. Junji Ito, donc pour mettre un contexte, c'est un auteur qui écrit et dessine notamment des mangas d'horreur et il est considéré un peu comme un maître là-dedans ces derniers temps, le grand nom.
Bah après ça fait très longtemps, hein. Je crois que ça fait depuis les années 80.
Oui, ça fait longtemps qu'il fait.
Donc c'est le seul connu qui fait vraiment des mangas d'horreur depuis aussi longtemps, donc forcément sa renommée vient de quelque part.
C'est un peu un incontournable.
Voilà.
L'avis que j'ai trouvé, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est à propos de l'œuvre de Junji Ito en général.
Okay.
Rien de ce que j'ai vu ne m'a fait peur, n'a été dérangeant, et en général, ça n'est même pas un peu flippant. Bizarre, c'est plus le terme que j'emploierais.
C'est quoi ce mec de l'ombre là ?
Bizarre.
Ouais.
Bah, le truc, c'est que ce mot peut tout et rien dire, quoi. Donc, si je crois ce qu'il veut dire de rien de déroutant, je dirais que c'est un peu. Bah, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire. Beaucoup de scènes qui. Beaucoup de. Bah, pareil, en fait, en tête, j'ai notamment Spiral que j'ai lu très récemment. Et bah, dans Spiral, il y a beaucoup de choses très déroutantes, comme une certaine transformation en escargot et certains événements qui arrivent derrière, et le fait que bah, c'est des vraies personnes, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que généralement, dans certains mangas et animés, on s'en fout des figurants, des choses comme ça. C'est pas important, ils sont juste là, des fois, et puis voilà. Sauf que, en fait, dans Junji Ito, je dirais que les figurants, en eux-mêmes, sont un peu un personnage. C'est un peu un personnage en eux-mêmes, parce que le truc, c'est que du coup, tu les vois faire des choix, tu les vois avoir des envies et des choses comme ça. Et le truc, c'est que quand tu mets de l'horreur à des gens qui ont des envies particulières et qui ont une haine particulière ou des choses comme ça, tu obtiens des résultats qui sont très. Très déroutant, justement. Donc, par exemple, il y a dans Spiral une fille qui est obsédée par sa beauté, et le truc, c'est qu'elle devient aussi obsédée par la spirale, et donc, d'où vient le panel très connu où une fille a une énorme spirale dans la tête et l'œil qui sort et qui. Et en fait, c'est pas forcément les dessins. Les dessins sont très déroutants, il y a beaucoup de choses qui sont. Très dur à voir, entre guillemets, si jamais on n'a pas une très bonne sensibilité par rapport à ça. Mm-hmm. Mais en soi, c'est aussi les actions et les paroles et tout ce qui est retranscrit des personnages qui est déroutant. Quoi. Donc en soi, que ce soit juste bizarre, on dirait que pour lui, Junji Ito a juste pris des comment dire situations loufoques où des gens meurent donc je me dis c'est pas vraiment comme ça que j'ai vu le manga perso. C'était beaucoup de une espèce de perversité de la spirale, notamment dans Uzumaki, ou une perversité d'un son d'un disque par exemple dans un des chefs-d'œuvre de Uzumaki, d'un des chefs-d'œuvre de Junji Ito plutôt. Et donc c'est vraiment réfléchi, quoi. Il y a une cause, des conséquences, et c'est souvent quelque chose de très badant, quoi. Voilà.
Bah, je suis assez d'accord pour en avoir lu quelques œuvres de lui aussi. Moi, je trouve pas, enfin, ça m'a pas fait peur. J'étais pas terrifiée devant le truc et tout. J'étais en sueur, genre, oh mon Dieu, c'était vraiment pas ça. Mais moi, pour le coup, c'est plutôt le côté perturbant, dérangeant qui est plus ressorti pour moi.
Ouais, c'est
vrai, t'as des trucs, c'est des concepts hyper bizarres. Enfin, du coup, le bizarre, il ressort aussi. Ouais. Mais des concepts hyper. Dérangeant, t'es là. J'aime pas. J'aime bien parce que c'est bien fait et c'est quand même intéressant à voir et ça reste une œuvre de fiction, donc c'est quand même cool. Mais d'un autre côté, t'es là genre non, j'apprécie pas. Par exemple, j'ai une scène en tête, je crois que c'est dans Tomier, je sais plus quelle histoire exactement. Il y a une histoire avec des cheveux et tout, et il y a un concept trop bizarre. Vraiment, il y a une fille qui se plante un cheveu dans le visage, après elle a plein de cheveux sur son visage.
Ah oui, c'est
trop bizarre, dérangeant. C'est une personne qui fusionne avec un tapis à un moment. Tu te dis mais quoi? Et en fait, quand tu regardes le truc, t'es c'est un peu dégueu. Et ça, c'est un petit peu perturbant.
Ouais, non, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, t'es sûr que sur une histoire random, il y aura forcément un personnage qui va faire quelque chose, je sais pas, de manière plutôt raisonnable, quoi. Mais puis d'un coup, ça commence à partir en vrille.
C'est souvent comme ça.
Donc, ça commence d'une toute petite action, toute petite envie d'un personnage random qui est plutôt légitime à une horreur sur 4-5 pages qui est un peu compliqué à voir.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres avis autour de la table? D'autres choses à dire à propos de... Vous n'avez pas trop lu, vous, Mathieu?
J'ai commencé à lire Spirale. Tout ce que j'aurais à dire, c'est que la transformation d'escargot, c'est une Jojo ref. Voilà.
Oui, alors... je crois que... Attends, c'était sorti genre en 2002, un truc comme ça.
Ah, je sais pas qui a fait quoi en premier, mais...
Oui, c'est une Jojo
rêve. Tout n'est que Jojo rêve dans le
tout
monde.
Tout n'est que Jojo rêve, c'est non. Ça.
C'est bon, tout n'est que Jojo rêve.
On vit dans le monde de Jojo.
Melwan, toi, tu recommandes Spirale?
Ah, absolument. En plus, on a la version intégrale, même si je crois que maintenant, c'est que ce qui se vend.
Oui,
mais la version intégrale est incroyable. La couverture est ouf. Les dessins sont vraiment beaux, la qualité en général de l'œuvre est vraiment impressionnante, et puis surtout sur la fin de Spirale, tant au début on est un peu en mode il va pas se passer grand chose de perturbant, tu vois, je trouve que sur la fin tu peux pas prévoir ce qui va se passer, quoi. C'est trop trop random, tu sais pas si les protagonistes vont s'en sortir et tu sais pas comment ils vont s'en sortir et tu sais pas juste la suite, en fait. Voilà, quoi.
Et on peut retrouver ça où?
À la BTBTEC, à la BU,
à la BTBTEC, let's go!
À la bibliothèque universitaire du centre Benjamin Franklin. Allez, venez tous. Ça a été incroyablement couvert par Anna. Donc,
Gros big up. Hein.
Gros big up à Anna. du coup, si vous voulez lire du Junji Ito, on a plusieurs œuvres de cet auteur à la BTBTEC. On a Uzumaki, on a Tomie, on a Les Chefs-d'œuvre partie 1. Si vous voulez lire L'Attaque des Titans, on a aussi tous les tomes à la BTBTEC, ainsi que plusieurs tomes à côté, tels que Birth of Levi, pardon, il me semble.
Oui.
Et il me semble quelques tomes aussi de Before the Fall.
Je crois que c'est les histoires supplémentaires sur Mikasa et Annie.
Oui, ça on les a aussi. Et je sais plus, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gun à la BTBTEC aussi.
Évidemment, Gun, on a Gun partie 1, partie 2. Mmh. On a acheté le premier tome de Mars Chronicle, mais voilà.
On a Nana, parce qu'on en a parlé au début.
On a Nana, on a Jijika, on a que... Evangelion.
Une partie de Bleach aussi. Si
partie
vous
de Bleach. Yes. Ça arrive la fin, ça arrive.
Si ça vous intéresse, vu qu'on a parlé un petit peu. Donc je pense qu'on va pouvoir terminer cette émission sur ça. Merci à tous d'être venus participer à ça. Merci de nous avoir écoutés aussi. On se retrouve en septembre, probablement. Bonnes vacances tout le monde.
Profitez du soleil.
On va vous manquer.
Allez toucher de l'herbe. Enfin,
vous allez nous manquer.
Oui, exactement. Moi, ça va manquer de faire cette émission. Bon, Au revoir.
Salut.
Bisous.